Trêville PM. Commentaire.
Où est-ce qu'il y a le problème? Quel problème rampant au Québec essaie-t-on de régler avec cette loi-là? Moi, je le vois pas.
Voici David Heurtel.
Alors, Luc Lavoie est en vacances. Je crois que le concept de ce bloc-là, d'après mes boss, c'est qu'il voulait pogner quelqu'un qui me tape ses nerfs afin qu'on se pogne en nombre. Mais ça a fini que Luc puis moi, on s'aime beaucoup. On a du fun. Puis là, ils ont engagé David Heurtel pour me tomber ses nerfs, mais c'est un chum. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Alors, monsieur le ministre, c'est plat, tu gardes pas le titre. Hein?
Non,
c'est
non.
Les présidents des républiques gardent leur titre, mais ouais. Toi, ministre, t'as pas gardé ça.
Non, ministre, je suis David. Je suis redevenu David.
C'est David. Puis étonnez-vous pas, on se tutoie, mais bon, ouais. C'est dur de se voir.
Je vais faire mon possible pour te taper, Seigneur.
Ah, écoute. J'entends qu'on peut en faire un petit bout. Mais justement, là, c'était 1030 employés de la luminerie Abbey qui est en lockout depuis le 11 janvier 2018. Je crois qu'ils retravaillent.
C'est long, longtemps.
Le fonds de grève, à un moment donné, il y en a plus.
C'est ça. Et déjà, évidemment, on n'a pas tous les détails là, de l'entente qui vient d'être votée là, mm-hmm. il y a pas longtemps. Mais déjà, on voit qu'il y avait plusieurs raisons. Et une d'entre elles, c'est que les gens commencent à s'inquiéter vraiment par rapport au fonds de grève. Le fonds de grève semblait plus vraiment avoir grand-chose dedans. Aussi, il y avait clivage entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus vieux.
Ah oui?
Bien, encore une fois, ces informations, là, moi j'ai parlé à un jeune qui était lockouté il y a 5 minutes. Et puis, l'information qu'on a, puis bon, ça c'est juste une personne, là. Je dis pas qu'elle parle pour tout le monde, là, mais déjà, on peut sentir que l'exécutif... qui avait recommandé là, de voter contre
la proposition. Il n'en voulait pas de l'entendre d'eux autres. Il y a même le président qui a démissionné suite à l'acceptation contre son avis de l'entente.
Exactement. Donc, le président et tout l'exécutif syndical démissionnent. Fait qu'il y a vraiment un clivage. Là. Il y a une grosse division parce que c'est pas serré-serré. Hein. Tu as dit tantôt, tu sais, c'est presque 80 % de 75 %. C'est un haut taux de participation, puis c'est une grosse majorité dans le taux de participation. Là.
Ouais. Fait que les gens... Attends, les libéraux, vous auriez aimé ça, maudit.
Ça, c'était... On appellerait ça un raz-de-marée.
Oui, littéralement.
Alors,
c'est d'ailleurs doux rapporter après, parce que moindrement que tu fais un pet à gauche ou à droite, tout le monde te le reproche, puis te reproche d'abus de pouvoir chaque fois que tu bouges.
Ça rappelle les bonnes vieilles majorités de Robert Bourassa. Là, il y avait 100 sièges sur 108. Là.
Oui.
Mais l'enjeu maintenant, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis est-ce que c'est vraiment parce que les employés voyaient la fin du fonds de grève venir, les employés croyaient sincèrement que Alcoa allait s'en aller, fermer et s'en aller?
Toi, qu'est-ce que tu croyais? Est-ce que tu penses qu'il allait fermer pour
moi? Moi, fondamentalement, oui. Parce que l'environnement mondial présentement pour les alumineries, là, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis, pour une économie d'argent plus ou moins substantielle, ces multinationales-là vont déménager. Moi, je l'ai vu, je veux dire, quand on était au gouvernement, moi, j'ai jamais eu de dossier direct. Moi, j'étais à l'environnement, puis ensuite à l'immigration, mais on voyait les dossiers économiques quand des grosses entreprises étaient soit installées au Québec ou voulaient s'installer au Québec, les concessions qui étaient demandées étaient énormes, puis ils disaient, ben regardez, c'est ça ou on va ailleurs.
Finalement, t'as pas le choix.
C'est parce que c'est un marché d'acheteurs.
D'après toi, ils ont bien fait d'accepter ça.
Ben, pour moi, là, c'est des très bonnes jobs.
Dans ce qu'on sait, là.
Dans ce qu'on sait. Regarde, moi, j'ai pas vu l'entente, mais je veux dire, des fois, on doit aussi faire le compromis qui s'impose.
Oui, je comprends. Je vais entendre tout le monde, moi, à propos de la fin de ce lockout. Si vous êtes un employé d'Abbey, j'aimerais ça savoir comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez déjà été en lockout, si vous avez déjà été le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui a été en lockout, si vous avez déjà été son enfant ou son chien, n'importe qui, appelez-moi, je veux parler à tout le monde, c'est très important. Vous pouvez nous rejoindre au 514-790-9850 et à l'extérieur de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce qu'on a déjà un appel? C'est pas rentré encore. J'aurais dû le donner tantôt, c'est mon erreur de débutant, mais qu'est-ce qu'ils font, là, tout l'exécutif de ce syndicat-là, ils partent en disgrâce là, dans ce temps-là.
Ben là, il y a clairement des aveux, puis aussi, c'est de voir ça va être quel climat. Parce que quand on parle d'un exécutif syndical, on parle de gens très influents chez les employés, là. Puis c'est pas juste les 4-5 gars de l'exécutif, là. Ça veut dire qu'il y a une grosse gang.
Est-ce que tu penses qu'à la tête du syndicat, il va y avoir une faction de jeunes, maintenant?
Ben, c'est ça, là. C'est de voir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur du syndicat qui montre que là, il y a une autre faction qui a comme pris le pouvoir, là. Et, mais là, ça veut dire que la gang qui vient de démissionner, est-ce qu'elle va partir doucement ou elle va, elle aussi, on a déjà vu ça dans les syndicats, on a vu ça ici à Montréal.
Oui, ouais, de claquer la porte comme il faut, là.
Quand la présidence est désavouée, la présidence, elle s'en va pas doucement, puis silencieusement. Elle reste là, puis elle est rue dans les brancards, comme on dit.
Fait oui, que, c'est pas une politicienne. Elle peut le faire, elle. Vous autres, vous pouvez pas. Quand vous êtes battu, vous en allez.
C'est ça. Faut s'en aller, puis faut prendre son trou, mais... tu sais, dans cette dynamique-là syndicale, on est clairement dans une situation où, tu sais, quand on regarde le monde de l'aluminium, là, tu sais, c'est pas, nous, notre avantage au Québec, pourquoi on a de l'aluminium, puis on a des alumineries, c'est à cause de l'électricité. L'électricité pas chère.
C'est ce qu'ils demandent, oui, mais c'est ce qu'ils demandent en premier, c'est l'électricité gratuite, là, en fait.
C'est ça. Puis on offre des tarifs très, très, très avantageux, parce qu'en plus de ça, on est en surplus. Puis on veut les alumineries parce qu'on veut les emplois qui viennent avec. Parce que c'est des bons emplois qui sont bien payés.
Moi, je voudrais, aussi les réductions d'Hydro-Québec.
Oui, c'est ça. Mais malgré tout, tu sais, il faut le dire quand même, malgré tout, oui, on trouve qu'on paye cher notre électricité, mais ça a moins cher en Amérique du Nord.
Au bout de la ligne, on a déjà Mario. Salut, Mario.
Oui. Oui, salut Daniel, ça va bien?
Ça va bien, toi? Ah, oui, t'es le premier qui m'appelle Daniel. Tu sais que c'est mon vrai nom, ça fait plaisir.
Hey, dans ma pensée, on va te dire, ben fais de ce que t'as fait, du parcours que t'as fait. Je suis un ancien, moi aussi, puis je sais ce que t'as vécu, puis je voulais te le dire, puis je trouve ça super ce que tu fais, là. T'es quelqu'un de bien dans la société, puis on a besoin de monde comme toi.
Ben, t'es bien fin, on fait super, mais là, nous autres, on a besoin de ton avis, là.
Ben ouais, moi, je veux dire, là, je suis bien content. Moi, je suis camionneur, là, puis... Je regarde un petit peu ce qui s'est passé là-bas depuis le temps que ça a duré. Là. Je veux pas choquer personne. Là. Il était vraiment sans dessin là, de durer ça longtemps de même. Là, regarde. Peu importe les raisons. Là. Il y en a qui travaillent à 12$ à l'heure. J'ai un de mes chums, son gars, travaille là. Il gagne 45$ à l'heure. C'est quoi tu veux de plus? Là? À un moment donné, là, regarde, arrêtez de rire du monde. Là. Puis M. Legault, là, il avait raison à 150 000 à l'heure. Fait que c'était mon avis, Daniel.
Ah oui, tu penses que M. Legault avait raison de s'en mêler?
Oui, oui, de dire, il doit dire son opinion d'ailleurs. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui ont de la misère à manger, puis eux autres, ils gagnent quasiment 100 000 par année. Les camionneurs, on travaille 170 heures par semaine, puis on fait même pas 50 000, 60 000. Ben, eux autres, travaillent 40 heures par semaine, 80, 90 000 par année.
Vous autres, vous avez le droit de vous prononcer. On est d'accord avec vous autres. Vous autres, vous avez le droit de vous prononcer. On est d'accord avec vous autres.
Daniel, juste en passant, à un moment donné, j'avais appelé par rapport à ceux qui se sentent abusés de leurs employeurs. Moi, je suis camionneur, ça fait 35 ans. Et puis, moi, j'aimerais ça que vous faisiez une émission là-dessus à un moment donné. Isabelle, elle avait demandé à rechercher de prendre mes coordonnées, qui était pour me rappeler, parce qu'elle trouvait ça intéressant. J'ai jamais eu de nouvelles, puis j'ai trouvé ça plate, hein. Parce que je trouve que...
Ben, écoute, si c'est de nous rechercher ce que tu parles, il n'a jamais échappé personne. Je te promets qu'ils vont t'appeler. Ils ne te lâcheront pas. Merci, Mario. Nathalie. Bonjour, Nathalie.
Salut, Dan.
Salut.
Écoute, moi, je travaille pour la Poste et la dernière fois, on a fait une greffe et nous ont mis en lockout. Donc, ça n'était pas drôle, c'est vraiment pas agréable, c'est pas agréable de se faire dire que tu peux pas rentrer au travail, et puis en plus, ben tu survis pas sur le fond du syndicat, là.
Ouais, puis c'est pas illimité, ce fond-là, à un moment donné, ça se termine, là.
Même encore, là, je me rappelle pas, mais je pense... Tu me trompes peut-être, on a une coupe de 100$, là. C'est pas la mer à boire, là. On a été une couple de semaines, nous autres, plusieurs semaines, 7-8 semaines à être en lockout. Puis c'est pas drôle, même depuis 2011, là. Puis moi, je souhaite ça. Je veux plus revivre ça parce que ils nous sortent de nos maladies, ils nous coupent beaucoup de choses. Fait que c'est pas. C'est comme un arrêt de travail, c'est pas une...
Oui, c'est pas un arrêt maladie, là, je comprends. Je comprends, puis je comprends aussi que les surplus que la CAQ se vendent, c'est les libéraux qui ont été cherchés. De temps en temps, coupant dans nos affaires. Excuse-moi, mon David, mais ça, c'est vrai.
C'était de la rigueur budgétaire.
Oui. C'était pas de l'austérité. Ben non! Merci beaucoup. On a Daniel au bout du fil. Salut, Daniel.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, moi, je peux te dire que c'est une bonne affaire qui revient au travail. Juste te dire, en affaire, moi, j'ai travaillé dans les Aluminiers rouges, Lac-Saint-Jean.
Oui.
Regarde, les gens ont très bien leur vie. Il y en a là-dedans que s'ils perdraient leur emploi demain matin, là, ils n'ont même pas son air 3 ou 4. Là. Il y en a qui sont très
bien. Parce qu'il y en a que c'est des jobs de toute leur vie. Il y en a qui ont travaillé là 20, 30 ans. Tu ne trouves pas un job du lendemain.
C'est plus de 100 000 par année avec un son d'air 3 ou 4. Tu ne trouveras jamais ça. Là, il y a une autre affaire. J'écoutais un reportage autrefois. La Chine, c'est une mondialisation. La Chine fait du dumping depuis longtemps. Il y a 20 ans, il y avait 2 alumineries. Maintenant, ils sont rendus à 200 alumineries. Fait que je peux-tu te dire que font du dumping, ils ont les plus gros barrages au monde.
Ouais, mais on s'est tellement fait vendre la mondialisation sans s'apercevoir que c'était ça. C'est-à-dire que les compagnies pouvaient, si nous autres, on n'est pas contents, ben, ils vont aller chercher dans d'autres pays des salaires qui sont 10 fois plus bas. Fait qu'on est obligé de passer.
Le gros bout du bat, malheureusement, le gros bout du bat, là, c'est les employés, les employeurs qui l'ont. Les syndicats, il faudrait qu'ils se mettent à la page là-dessus.
Ben écoute, je te remercie de ton appel, Daniel.
Merci, bye.
Et à une prochaine. Après la pause, l'UPAC se cherche un nouveau boss. Intéressant. Salut.
Drainville PM. Commentaire. Voici David Hurtel.
C'est quel ministre libéral qui avait dit que ça prendrait un miracle pour redresser les finances publiques? Moi, je dis que la commission Charbonneau s'est arrêtée à vos portes et puis que vous avez regagné vos élections. Vous avez déjà 2 hosties de miracle. Pardon, je m'échappe tout le temps. Vous êtes à bout de miracle. Vous avez plus le droit, les libéraux, au miracle.
Plus le droit au miracle.
Non, c'est fini.
Ben, c'est pas nous qui avons levé le célèbre point dans les airs durant la campagne de 2014.
Non, mais c'est vous qui avez coupé. Puis là, c'est la CAQ qui fait le coq avec.
On avait un énorme déficit. On ne pouvait plus rien payer. On ne pouvait pas. Il fallait rembourser la carte de crédit. C'est ce qu'on a fait.
J'ai un problème avec ça, honnêtement.
Elle était pleine, la carte. Elle était vraiment pleine.
Ouais, je comprends qu'elle est pleine. C'est parce qu'il y en a qui ne payent pas leur bout.
Moi, OK, parlons de ça.
Tant qu'il n'y a pas un gouvernement qui me dit, là, moi, j'arrive avec une escouade solide, sérieuse, avec des inspecteurs de l'impôt, des policiers, m'en fous, des colonels de l'armée, t'amènes tout ce que tu veux, tu fusilles, mais là, on va aller fouiller les paradis fiscaux, on va aller chercher nos...
On va aller loin. Quand Robert Bourassa avait fait ça, on avait, pour l'aide sociale, on avait appelé ça les boubou macoutes.
Oui, mais attention, là.
Puis on avait rentré dans cet effort-là, pas à peu près.
Non. Là, c'est parce qu'on allait chercher de l'argent dans les poches des pauvres. Moi,
j'ai
un petit cochon, là, avec un peu d'argent, puis j'ai un énorme cochon avec des milliards là-dedans. Où est-ce que je vais chercher mon budget? C'est là. Puis avant de dire que j'ai plus d'argent, j'attends d'avoir toutes mes intrants, pas juste mes dépenses pour dire que j'ai une dette.
Tout l'argent, oui. L'affaire, c'est qu'il faut trouver cette espèce d'équilibre. On est déjà à plus de 50% d'impôts quand tu additionnes tous les impôts. On est les plus imposés en Amérique du Nord.
Parce qu'il y en a qui ne payent pas. Si tout le monde les payait, ça réduirait le fardeau
mais
des autres, tu crois pas?
Que ça soit en Europe. Regarde en France, les riches, ils ne payent pas plus. Ils vont à Monaco, ils vont au Luxembourg, ils sortent leur argent. L'idée, c'est que tant que le monde entier se met pas sa main.
On peut-tu nommer des pires pour se justifier? Puis,
moi, tout ce que je te dis, Dan, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Parce que là, ça devient des situations...
Des boubous m'accoutent après les grosses compagnies qui ne payent pas leur impôt.
Si les compagnies... Justement, on vient de parler d'une grosse compagnie. Là. Qu'est-ce qui arrive si Alcoa décide, ben moi, je m'en vais parce que les taux d'imposition sur les corporations sont trop élevés au Québec, puis ils vont à côté, ils vont en Ontario ou ils vont aux États-Unis. C'est où l'équilibre?
Donc, il faut accepter qu'ils ne payent pas d'impôts.
Je dis pas ça. Je dis juste que là...
Juste dire.
Non, moi, je dis qu'il faut être concurrentiel avec l'environnement dans lequel on est. Le Québec ne peut pas imposer un tarif qui fait en sorte qu'on perd le développement économique.
C'est quand même c'est immoral ce qu'ils font, mais c'est légal. Right?
Right.
On ne peut pas rendre ça illégal. L'évasion fiscale, toi puis moi, si on ne paye pas nos impôts, je t'annonce qu'il y a un inspecteur qui débarque demain.
Il y a une différence entre l'évasion et l'évitement. L'évitement, c'est légal. L'évasion, c'est illégal.
C'est pas payer ses impôts dans les deux maudits cas.
Tout le monde essaie. justement, puis tout le monde, que ça soit du particulier à celui qui a une PME, tout ça, essaie de mettre toutes les chances de son côté pour payer le moins d'impôts possible.
Non, mais on a des déductions normales, tout le monde, mais moi, je cache pas des milliards, puis je cache pas 90 % de mes revenus.
Moi non plus. Il y a une différence entre cacher, puis l'affaire aussi, c'est que, veux pas, nous autres, on essaie d'attirer des entreprises. Alors,
en permettant de l'évasion fiscale.
On ne permet pas de l'évasion fiscale.
Oui, tu viens de le dire,
non,
la différence entre
l'évitement. J'ai dit qu'on paie. L'évitement, c'est légal.
Hey, c'est fort, il est meilleur que Luc pour me taper ses nerfs.
Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais à la fin de la journée, faut rester dans le monde dans lequel on vit. Puis le monde dans lequel on vit, c'est que si on n'attire pas les entreprises, il n'y en a pas de job. Fait que c'est où le juste milieu?
Ouais. Ça, c'est un petit peu d'être du bord de compagnie. On va quand même prendre une tribune, parce que le sujet de départ, avant qu'on se tape un peu, hey, c'est un peu un jeu aussi. Là. On fait exprès pour s'énerver, mais nous autres, on s'aime beaucoup dans la vie, puis on a des grands amis en commun, d'ailleurs, avec lesquels on boxe. Oui. On n'a juste pas boxé, toi puis moi, à un moment donné.
C'est vrai.
Ça va venir, à un moment donné.
Dans deux, trois chroniques.
Je fais mon petit cardio, puis je te... Oh, ça ne va pas. Excuse-moi. Alors, la tribune. Croyez-vous encore à l'UPAC? Parce que là, ça change de boss, l'UPAC, encore. On parle de... Il cherche un patron, mais le salaire annuel va jusqu'à 223 000 piastres selon les compétences. Alors, envoyez votre curriculum vitae au gouvernement du Québec. À 223, peut-être je m'essayerai moi-même. Alors, croyez-vous encore à l'UPAC? Vous nous appelez au 514-790-9850. Puis de l'extérieur de Montréal, c'est le 1-866, même numéro, 790-9850. Alors... J'ai encore donné les numéros tard, fait qu'il n'y a pas encore personne, c'est pas grave. Là, l'UPAC, il me semble que c'était une unité de police qui était censée aller fouiller chez les autres, puis débusquer la corruption.
Ouais.
Ils ont encore plus de problèmes que les autres. À un moment donné, ça prend une police, surveiller la police, qui surveille la police, qui surveille l'autre police, la chaîne arrête où, là? Qu'est-ce qu'on fait, à un moment donné, pour... Est-ce qu'on nomme un chef de l'UPAC aux deux tiers de l'Assemblée nationale?
Là, maintenant, la CAQ a fait en sorte que...
La CAQ a bien fait quelque chose.
Ben, la CAQ a rempli une de ses promesses, c'était de faire en sorte que la nomination du chef de l'UPAC soit faite aux deux tiers de l'Assemblée nationale. L'UPAC a été créé en février 2011. Par le gouvernement Charest. Puis là, ce n'est qu'à l'automne 2011 que la commission Charbonneau a été créée. Fait que l'UPAC avait été comme créée à une époque où le gouvernement Charest essayait, avec l'UPAC, de cesser un peu l'hémorragie entourant toute la question de corruption. C'était évidemment, ça n'a pas fait l'affaire. Et il a fallu ultimement que le gouvernement accepte de créer la commission Charbonneau. Puis on a vu qu'est-ce qui est venu depuis. Mais là, depuis plusieurs mois, voire années...
Comment se fait que la commission Charbonneau...
L'UPAC a de la bien mauvaise presse.
Je sais pas, comment se fait que la commission Charbonneau s'est attaquée là, à la ville? Là, ils ont pogné tout le monde, les compteurs d'eau, tout le monde, les petites ristournes, Monsieur 5%, toute la gang, les trucages de contrats, tout ça... Et aucun mot sur le gouvernement provincial.
Ils n'ont
pas été là.
La preuve était là. Là, la question, c'est que ultimement, ce qu'on voit, c'est que il semblerait y avoir eu des dossiers qui ont été envoyés à la direction des poursuites criminelles et pénales, qui ultimement prend la décision s'il faut qu'il y ait des accusations formelles de prise ou pas. On n'en a pas vu. Encore, puis les enquêtes sont encore supposément en développement, sauf que le problème, c'est un problème ultimement de confiance dans les institutions. Alors, à un moment donné, quand...
Oui, j'ai pas très confiance dans les institutions, tant qu'on n'a pas passé au travers de la question. Puis une enquête, ça dure combien de décennies?
Ce que je me demande, Dan, c'est que moi, je pensais à ça beaucoup quand cet avant-midi, quand j'ai vu l'article. Puis moi, je me dis à un moment donné, c'est un peu comme la ville de Philadelphie a fait sur la question des enquêtes sur les agressions sexuelles. Il y avait un gros manque de confiance. Qu'est-ce que la ville de Philadelphie a fait? Ils ont dit, jusqu'à telle année, on recommence à zéro avec une nouvelle gang. Puis on recommence toutes les enquêtes. Puis à un moment donné, parce que
est-ce que tu serais pour ça?
Parce que la chose la plus fondamentale dans notre société, là, c'est la confiance. Une fois qu'on perd la confiance dans nos institutions, là, oublie ça. Le reste, là, ça ne marche plus. Puis là, il n'y a rien de plus fondamental dans notre société que la justice. Puis il n'y a pas juste la justice, mais l'apparence que justice est faite. Puis là, dans ce contexte-là, ce qu'on
mais c'est
a...
C'est parce que là, on doute même de l'UPAC. C'était eux autres qui étaient censés faire la lumière. Ah, fait que là, c'est qui va surveiller l'UPAC?
Ben voilà. Alors là, peut-être.
J'y aille en personne.
Ben non, mais peut-être. Non, mais peut-être, dans le sens que. Mais là, tu ris, il faut y aller en personne, mais il faut peut-être, justement, une des grosses questions, c'est peut-être ça doit être quelqu'un issu du civil, entre guillemets, qui dirige l'UPAC. Ça soit une femme ou un homme qui n'est pas issu de la police.
Puis qui est indépendant du gouvernement aussi.
Exactement.
On a donc, nommé par qui?
Bien, il est nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Puis ça doit être, à vertu des règles, tous les partis ont leur mot à dire. Il y a un comité avec des députés de tous les partis. Puis il doit y avoir un vote aux deux tiers. Ça, c'est plus de 90 députés. Là.
OK. Alors, écoutez, à la tribune, croyez-vous encore à l'UPAC? C'est simple. On a un premier appel. C'est pour ça que je l'interromps, mon cher. Ça sera pas long. Michel!
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Michel.
Bonjour. Au sujet de l'UPAC, moi, je pense que c'est bien difficile de mettre des gens qui sont objectifs et puis qui vont faire le travail comme il est supposé être. Écoutez, la police au Québec, là, c'est un petit monde. Hein? La Sûreté du Québec, la police de Montréal, la police de Québec, bon, avec qui vous voulez former un comité comme l'UPAC avec des gens qui viennent de ces milieux-là? Ils se connaissent tous. Tous les hauts dirigeants, toutes les...
Une compétition entre les corps policiers, pareil. Ils
chicanent un petit peu entre eux. Oui, mais quand tu sors de là, c'est des chums. C'est comme en politique, là, je veux dire, les libéraux parlent aux péquistes, les péquistes parlent aux caquistes. Puis,
OK, comment on fait, David, puis moi, là, on est un peu l'UPAC pour toi, là, en ce moment.
Bon, pas, ben, disons que vous n'avez pas des grosses décisions à faire, là, mais...
Non, j'en ai aucune. Moi, je suis, comme tout le monde, je suis pas au pouvoir.
Au Québec, là, la Sûreté du Québec, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une police politique. Là. Je veux dire, ça a été créé, la Sûreté du Québec, par la province pour justement avoir plus de pouvoir que les municipalités. Et de là, la fameuse formule que les municipalités sont des créatures de l'État, alors que c'est exactement le contraire. Là. C'est l'individu qui forme les communautés. Les communautés forment des municipalités qui forment des provinces, etc.
S'il y avait une nomination d'un chef de l'UPAC, mais qui est complètement en dehors de la politique puis en dehors du milieu policier, est-ce que vous pourriez y croire un petit peu plus?
Ah ben oui, ben c'est sûr. Et puis je pense que l'idée de mettre un civil à la tête de cette organisation-là, c'est une excellente idée, en autant qu'il n'y a pas de politique là-dedans, que chacun n'essaye pas de faire nommer son homme parce que c'est son homme, là, mais de vraiment prendre quelqu'un. Là. Moi j'irais avec un... Pourquoi pas? Moi, j'irais avec un autochtone.
Tiens donc.
Wow.
Ben oui.
Wow.
Oh oui, ils aiment pas beaucoup les politiciens. Ils sont pas fous de la police souvent non plus.
Ben, c'est
ça. Ils sont en dehors. Pourquoi pas? David, ben, c'était ton idée là, de nommer quelqu'un de politique.
Moi, si quelqu'un a les compétences, moi, c'est let's go. T'sais, moi, il faut quelqu'un justement, qui, comme monsieur dit, qui montre qu'il y a une indépendance totale par rapport à la police.
Une impartialité. Puis ces gens-là ont une sagesse qui est différente de la nôtre. Et puis, je pense qu'un groupe de même ensemble pourra faire des bonnes choses.
Ben,
je le pense vraiment.
Ben, je vous remercie.
C'était déjà arrivé, tu sais, Dan, c'était déjà arrivé. La SQ était dirigée par un haut fonctionnaire qui est aujourd'hui décédé, un grand haut fonctionnaire qui s'appelait Guy Coulombe. C'était arrivé pour la SQ. C'est déjà arrivé avec des bons résultats.
Il avait fait un bel job.
Ouais.
Ah oui.
Ouais.
Comme quoi, il faut aller un petit peu fouiller. Non. C'est toujours la même phrase. C'était-tu Napoléon, je m'en rappelle. Qui surveillera les surveillants?
Exact. Il faut toujours que quelqu'un surveille quelqu'un.
Puis cette personne-là a toujours des pouvoirs.
Être surveillé. Oui. Un pouvoir ne peut pas ne pas être surveillé. Et dans ce cas-ci, ben là, on a un manque de confiance. Puis là, il faut vraiment faire le ménage.
Oui, je comprends. Alain. Salut, Alain.
Salut, Daniel. Félicitations, Daniel. Hey, écoute, regarde, moi, je trouve qu'on dépense de l'argent inutilement là-dedans. Je trouve qu'il y a trop de magouilles. Ça prendrait vraiment du monde de l'extérieur pour gérer ça. Mais on met trop d'emphase, trop d'argent là-dedans. Excuse, il y a des enquêtes qui finissent plus, comme tu disais tantôt. Ça coûte extrêmement cher pour enquêter là-dessus. Fait que tout l'argent qu'on dépense là, on pourrait la mettre ailleurs.
Ben, ou peut-être raccourcir les enquêtes si on met quelqu'un qui est vraiment en dehors du politique et du milieu policier, puis qui est fiable, peut-être que lui va faire avancer les affaires. Comme ça, on se met à sauver de l'argent si les enquêtes accélèrent. Vous ne trouvez pas?
Effectivement.
Ça serait peut-être bien. Je pense qu'on est tous d'accord sur la même chose. On veut de l'indépendance des systèmes établis. Tous les appels sont orientés là-dessus.
Mais on sent que les gens sont tannés aussi.
J'en ai un qui m'écrit « Il faudrait un juge à la retraite. » Les juges sont nommés, par exemple. Un autre m'écrit « Un ancien officier de l'armée pour gérer tout ça. » En tout cas, ça passera au battre par lui.
Ça a la discipline.
Il y a une couple de politiciens qui
on
se
avait
promèneraient
nommé
les
un ancien
fesses
de l'armée.
Serrées, là.
Au ministère des Transports, on avait nommé un ancien de l'armée.
Ah, c'est pas bien. Après la pause, la sécurité routière dans les zones scolaires... Moi, j'ai un chum policier là, qui, à un moment donné, a arrêté quelqu'un qui a dépassé un autobus jaune, qui avait les flashs rouges allumés, toute la bebelle. Puis quand il l'a attrapé, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Là, il dit « Je l'ai pas vu. » Il dit « Si t'as pas vu ça, il dit, je t'en dois me demander si t'aurais vu un enfant, toi. » Alors, les zones scolaires, ça a l'air que c'est un free-for-all, puis personne n'y pense comme il faut. Au retour de la pause. Merci.